La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Des dizaines de milliers de personnes dans les rues d'Istanbul, une répression policière féroce et des arrestations par centaines, mais que se passe-t-il en Turquie? Tout a commencé mercredi dernier, le 19 mars, avec l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principale figure d'opposition au président Erdogan. Accusé de corruption, le principal intéressé dénonce de son côté, je cite, « une exécution sans procès ». Et effectivement, le timing de cette arrestation a de quoi interroger, puisque İmamoğlu devait prochainement être désigné candidat du parti d'opposition pour les élections présidentielles turques de 2028. Dimanche, Ekrem İmamoğlu a été incarcéré et démis de ses fonctions de maire d'Istanbul, ce qui n'a fait que raviver la flamme de la révolte dans les rues. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont réunies dans les rues d'Istanbul et de nombreuses villes du pays dimanche soir, et les manifestations se sont poursuivies hier pour la sixième nuit consécutive. Le CHP, le parti d'İmamoğlu, le parti d'opposition, ne mâche pas ses mots et accuse purement et simplement le président Erdogan de coup d'état politique en tentant de museler l'opposition. Côté répression, c'est coup de matraque, canon à eau et bombes lacrymogènes à tout va. Le ministère de l'Intérieur turc a annoncé aujourd'hui que plus de 1400 personnes avaient été arrêtées depuis le 19 mars, dont près de 500 ont été déférées au tribunal. Et la liberté de la presse est également mise à mal puisque le photographe de l'AFP Yassine Akgul a été placé en détention provisoire aujourd'hui, accusé de participation à un rassemblement illégal. Un procureur d'Istanbul a également demandé l'incarcération de 6 autres journalistes interpellés à leur domicile hier. L'ONG Reporters sans frontières a condamné, je cite, « une décision scandaleuse qui reflète une situation gravissime en cours en Turquie ». En bref, l'arrestation d'İmamoğlu a créé une véritable onde de choc dans toute la Turquie, provoquant un mouvement de contestation d'une ampleur inédite depuis celui de Gezi en 2013. Alors après plus de 20 ans au pouvoir en Turquie, est-ce que c'est le début de la fin pour Erdogan? L'avenir nous le dira. Au programme de la matinale aujourd'hui, dans le Zoom, Garance recevra Johannes, programmateur du Petit Bain, pour parler du festival Rage Sacré. Éléonore passera en revue les actualités du jour dans le Flash Info. Pour les chroniques, on aura une chronique de Francesca qui nous expliquera pourquoi le manager toxique est un visionnaire incompris en 2025. Et on aura également une chronique de Fabien. Et pour commencer cette émission, place à l'interview avec Alice qui reçoit Philippe Clergeau, consultant en écologie urbaine et co-auteur de l'ouvrage Agriculture urbaine et biodiversité.
La matinale de 19h sur Radio Campus. Plus Paris.
On débute donc cette matinale avec Alice et Philippe Clergeau pour l'interview. La place est à vous.
Donc à l'heure où le réchauffement climatique est au cœur des préoccupations, ou du moins devrait l'être, on sait que les espaces verts et les forêts sont des espaces de décarbonisation très efficaces puisqu'ils représentent le deuxième plus grand puits carbone de la planète après les océans. Cela signifie que les forêts et les espaces verts sont essentiels dans l'absorption de CO2 et participent ainsi à la réduction de la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est donc ce soir Philippe Clergeau que l'on reçoit pour parler agriculture et végétalisation urbaine. Donc vous étiez chercheur à l'INRAE, vous êtes aujourd'hui professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, si je ne dis pas de bêtises, et ce soir vous êtes notre invité pour parler de la parution récente de votre dernier ouvrage, donc comme l'a dit PA, Agriculture urbaine et biodiversité vers une ville verte et agroécologique, qui est paru en février 2025 aux éditions Apogée. Donc ce livre est issu d'un travail en recherche et en co-direction avec Pierre Donadieu et Christine Aubry. Donc bonjour Philippe.
Bonsoir.
Bonsoir. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement comment s'est passée cette collaboration, d'où est né cet ouvrage
là devant les yeux. C'est un travail qui est issu de l'Académie d'agriculture de France. Et donc les académiciens ont classiquement des groupes de travail. J'en ai créé un autour de l'agriculture urbaine, ce qui était assez nouveau, puisque en général, c'est quand même beaucoup plus une agriculture très traditionnelle ou remise en cause. Aujourd'hui, qui est remise en cause. Voilà. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à un peu plus d'une douzaine à recevoir des spécialistes et à discuter beaucoup entre nous. Et pour pas aborder tous les problèmes qui sont quand même assez nombreux, on a essayé de se focaliser sur la biodiversité, qui est mon premier métier, hein, c'est la biodiversité urbaine, avant d'être urbaniste, entre guillemets. Et c'est comme ça que l'idée est venue, et que, avec Pierre Donadieu, donc, qui est professeur émérite à l'école de Versailles, qui est paysagiste, et puis Christine Aubry, qui travaille à l'AgroParisTech, qui, elle, est une vraie spécialiste de l'agriculture urbaine, on a décidé, voilà, de sortir des rapports classiques de l'académie pour en faire un ouvrage qui soit plus grand public et plus accessible au grand nombre, quoi.
Donc la première chose que j'ai envie de vous poser, elle se rapporte directement au vote citoyen qui a eu lieu du coup ce 23 mars sur la piétonnisation et végétalisation de nouvelles rues de Paris. Donc vous avez développé un concept, je ne sais pas si on peut appeler ça, si on peut dire développé, mais en tout cas quelque chose que j'ai retrouvé que vous avez fait, qui distingue trois types de villes qui prennent en compte la biodiversité. Donc il y a d'un côté la ville vivable, d'un autre la ville durable. Et ensuite, la ville régénérative. Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu ces trois termes et où est-ce que Paris serait actuellement, potentiellement ?
Définir les termes, oui, bien évidemment. On a pensé que c'était des niveaux de maturité par rapport à un sujet de végétalisation. Sachant que derrière cette notion de végétalisation, on a envie d'aller beaucoup plus loin. Hein. Il ne s'agit pas juste de mettre des géraniums partout. Mmh. Voilà, il y a aussi des questions de société qui se posent et de mobilité, de structure de ville, etc. Et donc, la première chose, c'est pour rendre la ville vivable, il faut planter. Parce que c'est aujourd'hui, comme on a beaucoup de mal à intervenir sur les causes qui sont l'automobile, notamment, et qui participent complètement au réchauffement de la ville, on plante, et à juste titre. Donc il faut planter pour rendre la ville un peu vivable. C'est la première étape, et aujourd'hui, ça c'est fait, tout le monde en parle, et on est passé enfin du discours classique chez les élus et autres décideurs à des actions concrètes. Le deuxième point sur lequel on avance vraiment bien dans pas mal de collectivités, c'est d'essayer d'avoir une cohérence dans ce qu'on plante. Et l'idée forte, c'est cette notion de biodiversité. La biodiversité, c'est quoi ? C'est pas de la richesse, c'est pas avoir plein de platanes ou plein de papillons. C'est d'avoir des formes d'écosystèmes, c'est-à-dire des relations entre ces espèces, et ces espèces aussi avec leur habitat. Donc du coup, c'est un gage de durabilité, parce que ça a fait sa preuve depuis fort longtemps, et les évolutions sont très lentes, mais voilà, on arrive effectivement à avoir quelque chose qui se tient beaucoup plus. Et on pourrait parler, si on met... Alors au début, déjà, ce qu'on peut faire, c'est des petits écosystèmes, au lieu de faire des plates-bandes, c'est d'avoir des réflexions sur des strates, qu'est-ce qu'on peut accueillir comme insectes ou comme oiseaux. L'idée que nous, on a, c'est d'en faire quelque chose de beaucoup plus important et de rendre la ville comme un écosystème. Alors ça, c'est un des grands projets. Aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, il y a des recherches qui sont poussées là-dessus, quoi. Et notamment en Nouvelle-Zélande, ils ont été encore plus loin. Et nous, on a repris cette idée de ville régénérative. C'est-à-dire, eh ben, si on veut faire un écosystème ou des écosystèmes, il faut qu'on reprenne le maximum d'idées de processus écologiques, l'hygiène alimentaire, les mutualismes, enfin bon, il y a plein de choses, la dispersion, et de travailler à des grandes échelles ce que l'on ne fait pas aujourd'hui, pour pouvoir rendre cette ville comme un vrai écosystème. Et un écosystème, ça s'auto-entretient. Hein, une forêt, on n'est pas en train de replanter sans arrêt des plantes ou de les arroser. Il y a une forme d'auto-entretien. Et l'idée, alors c'est une approche un peu simpliste, hein, évidemment, je caricature, mais l'idée, c'est de se baser sur cette nature, sur ce fonctionnement naturel, pour l'injecter dans la ville et pour en faire un organisme, un écosystème qui fonctionne. Alors évidemment, je vais un tout petit peu plus loin, on ne peut pas rester sur... sur la végétation, on est obligé de remettre en cause aussi. C'est un livre qui est sorti juste avant, dans la même collection, qui s'appelle La ville régénérative, écrite par Eduardo Blanco, que j'ai encadré en thèse notamment.
D'accord.
Et qui développe ça en montrant que la part pauvre de la ville régénérative, même en Nouvelle-Zélande, même aux États-Unis, c'est surtout les anglo-saxons qui sont déjà dans des perspectives comme ça, ont du mal à accrocher la biodiversité. Par contre, ils travaillent beaucoup sur l'énergie, ils travaillent beaucoup sur les recyclages, ils travaillent beaucoup sur les notions de gestion, avec cette idée d'auto-entretien, c'est-à-dire les circuits courts, c'est-à-dire enfin, des choses que tout le monde connaît maintenant.
Et vous en parliez à l'instant de la cohérence dans les espèces végétales introduites dans les milieux urbains. Parfois, on se rend compte qu'en fait, l'introduction des espèces exotiques dans des villes, dans des milieux qui ne sont pas adaptés, avec des dosages parfois pas assez réfléchis, deviennent des fléaux et deviennent ainsi invasives, et colonisent les autres espèces en bouleversant les écosystèmes déjà en place. Est-ce que la végétalisation d'aujourd'hui est compatible avec l'urbanisme d'hier, d'une certaine forme, dans la manière dont sont conçues les villes ?
Il y a plein de questions dans ce que vous venez de dire. La notion d'invasion, elle existe, mais aujourd'hui, elle n'est pas primordiale.
D'accord.
Donc voilà, c'est vrai que l'élante, quand on a planté de l'élante, elle se diffuse partout et ça finit par prendre la place d'autres espèces. Mmh. Le problème dans la végétalisation aujourd'hui, c'est avant tout le choix des espèces, hein, et l'organisation des plantations. Alors, on est resté sur une horticulture du 19e siècle. Alors, je vais faire crier évidemment tous les services municipaux et mes collègues paysagistes, mais on est resté beaucoup sur les alignements monospécifiques d'arbres, etc. Pourquoi ? Parce que c'était plus facile, parce qu'on a des notions de perspective, on a des notions de design, tout ce qui va un peu derrière aussi, de ces époques-là, quoi. Seulement, moi, écologue, si je regarde ces fonctionnements-là, on a une fragilité énorme. C'est-à-dire, comme un champ de maïs, on est obligé de le traiter parce que dès qu'on a une maladie ou un insecte qui arrive, eh ben, il bouffe tout. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. On a perdu l'orme dans toutes les villes du sud de la France dans les années 1970, quelque chose comme ça. Là, on va perdre le platane. Et le platane, il est à plus de 60% dans nos villes. Il faut qu'on arrête ces monocultures pour avoir des diversités un petit peu de plantation.
Quand vous dites perdre, c'est à cause d'invasion de
voilà, d'insectes, alors des insectes, des maladies qui se propagent très très vite ou autre, parce que ben on a que ça. C'est, il faut qu'on aille vers de la diversité. C'est des mots qui ont un sens beaucoup plus large à tous les niveaux, social aussi. Mais il faut qu'on aille vers de la diversité, et c'est la diversité qui permet aussi la durabilité. Et c'est un des éléments forts de la complexité, de la durabilité de la ville et du fonctionnement de l'établissement humain. Ouais.
Et un autre concept aussi que vous dites pas mal dans le livre que vous développez, c'est sur la végétalisation spontanée. Et notamment, on se rend compte que c'est sur les toitures qu'on retrouve 70% des espèces végétales qui sont sur les toitures, qui n'ont pas été plantées et donc qui sont spontanées. Est-ce que c'est ça la vraie richesse de la végétalisation ?
Alors ça, c'est un exemple. C'est une des recherches qu'on a menées. Effectivement, on a essayé de voir si on ne fait rien et qu'on laisse s'installer. On a effectivement des espèces. Il y a plein de graines qui se baladent dans l'air, hein, et on a des choses qui se rêvent spontanément. Et on est parti d'un a priori. Alors, c'est scientifique, on pose une hypothèse. Mais si elle s'installe toute seule et que ça marche, ça va être sans doute mieux que si c'est nous qui la plantons ou qu'allons chercher ça dans une serre. Donc voilà. Alors, pour faire simple, on a effectivement des espèces spontanées qui s'installent. Et c'est intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'écosystème, parce qu'il y a plein d'espèces végétales qui ne rentrent pas du tout dans le fonctionnement écosystème, mic, parce qu'ils ont des feuilles beaucoup trop épaisses, nos insectes, ils ne mangent pas ça, etc. etc. Je ne développe pas, mais c'est un peu l'idée. Quoi, voilà. Et l'idée de ces espèces spontanées, effectivement, elles peuvent s'installer un petit peu partout et elles sont assez intéressantes. Et on a démontré qu'en plus de ça, on avait les espèces horticoles et les espèces spontanées, elles s'entendent bien. Et on arrive à avoir phénologies, des croissances, des floraisons qui sont souvent plus importantes. Quoi, voilà.
Plus résistantes aussi, peut-être, d'un point de vue météorologique.
Alors voilà, donc après, il y a plein de recherches qui sont en cours, c'est qu'on n'avait jamais trop étudié, c'est les sols. Alors, pour ça, les toitures, ce n'est pas un très, très bon sujet, parce que pour nous, c'est des zones d'expérimentation, parce qu'on a du mal à faire ça sur le sol. Hein. Oui. À Paris, on avait plein d'idées. En fin de compte, on n'a pas réussi à faire beaucoup d'expérimentations, sur notamment à Bercy, où on avait prévu de faire des ouvertures de trottoirs, enfin des choses un peu folles, mais qui pour pouvoir tester quand même un peu des idées, voir si ça marchait, et aussi comment les gens ils acceptent ou pas, parce que pour l'instant c'est vrai que la notion du propre est tellement forte dans notre civilisation, surtout en France, surtout dans l'Ouest européen, qu'on a du mal à mettre de la végétation partout, parce qu'il faut ramasser les feuilles mortes, faut pas qu'il y ait trop d'insectes, etc. Voilà.
C'est les habitudes à changer. Voilà. Les écosystèmes végétaux permettent également de tempérer, voire de faire baisser les températures ambiantes. Or, on sait que le dérèglement climatique va provoquer des étés de plus en plus chauds dans le futur. Quand on sait que déjà beaucoup de Parisiens fuient les chaleurs estivales dans la capitale, est-ce que vous pensez que la végétalisation des grandes villes sera un bon argument commercial pour inciter les Parisiens à rester ?
Oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs voies, aux États-Unis, au Japon, etc., pour rafraîchir la ville. On arrose, on peint tout en blanc. Enfin bon, il y a des voies comme ça qui sont en train d'être étudiées, quoi. Moi, je défends plutôt effectivement la végétalisation parce que ça va beaucoup plus loin. Hein, les notions d'ambiance, la notion de santé surtout qui est très forte. Il y a plein d'éléments de services entre guillemets que rendent un peu ces plantations. Alors on parle plutôt des arbres en ville parce que c'est plus facile. Et c'est surtout que pour le grand public, c'est beaucoup plus important que des pensées ou autre chose. Et c'est là-dessus qu'on a le plus de discussions avec les collectivités, qu'elles sortent un petit peu de leur schéma petite plante mignonne et tout ça, pour aller vers des vraies réflexions écologiques, c'est-à-dire des choses qui tiennent dans le temps et qui et voilà et qui sont qui font écosystème un peu comme on disait tout à l'heure.
On va faire une petite pause dans cette interview, petite pause musicale. On s'écoute tout de suite Diva Virtual de Yuki. On vient de s'écouter Diva Virtual de Yuki.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
De retour dans la matinale, avant la pause, nous étions en plein entretien avec Philippe Clergeau, consultant en écologie urbaine, pour parler de son ouvrage « Agriculture urbaine et biodiversité ». Alice, je te relaisse la main.
Et on repart du coup là-dessus. Donc dans votre livre, vous dites notamment que dans l'esprit des citoyens urbains en France, la biodiversité et en particulier les espèces végétales ont aujourd'hui acquis ce que l'on pourrait appeler un droit d'existence. Les gens sont prêts à faire plus ou moins des sacrifices, à changer leurs habitudes de vie pour permettre une plus grande diversité végétale. Comment cela peut-il se manifester et est-ce que c'est vraiment acquis pour les personnes, pour les citoyens ?
À qui ça, j'en sais pas. Je sais pas. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie évolution quand même. Les municipalités ont pris en compte le sujet dans les années 1990. C'était pas du tout le sujet. C'était clair. Maintenant, on en parle. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est fort. Les citadins, il y a toujours cette culture du propre qui est pas évidente et qui limite aussi les actions dans tous les sens. Donc ça veut dire que ça s'organise, ça veut dire qu'il faut y a une sensibilisation, une information, des ouvrages, etc. pour que le grand public puisse comprendre aussi que si on veut des végétaux, ça veut dire qu'on a un sol qui est correct, qui fonctionne, avec des vers de terre, des mycorhizes, des champignons, plein de machins dedans. On a démontré que les arbres communiquaient entre eux, donc du coup arrêtons de faire des fosses comme on en fait partout. Et revenons à ce qu'on faisait au 19e siècle, on faisait des grandes tranchées et on plantait les arbres. Donc les arbres, ils avaient tous leurs racines qui se touchaient les uns les autres. C'est des choses importantes. Et puis une fois qu'on a ce sol et ces plantes, on aura de la faune.
Surtout que tout s'entretient, la faune, la flore, c'est interconnecté, interdépendant aussi. Dans tout ça, dans un souci et une recherche d'un approvisionnement alimentaire, ça revient un peu à ce qu'on disait juste avant, sur une recherche d'une meilleure qualité et une meilleure proximité sur l'approvisionnement alimentaire. Les initiatives de potagers partagés en milieu urbain ont vu une croissance ces dernières années, on en voit de plus en plus. Est-ce que ces alternatives, en tout cas ces initiatives, répondent à une demande de proximité, selon vous?
Oui, il y a une vraie demande sociale, ça c'est clair. Après, est-ce que c'est bien traduit? Ça c'est autre chose. Il y a une vraie demande sociale d'arbres et autres. Alors, on n'a pas le temps de parler des micro-forêts Miyawaki et compagnie, qui sont ce qui a été fait sur la place de Catalogne.
Oui, de Col.
Et par exemple, bon voilà, qui sont... on pourra en discuter. Il y a une vraie demande, donc les gens sont contents. En même temps, on sait que ça ne va pas être très, très durable. Ça va demander beaucoup d'eau. Et bon, les plantations, après, même si le choix des espèces est mieux qu'avant, voilà, on a des problèmes de type de plantation. Ça, c'est certain. Et pour revenir au potager, donc, qui sont un des grands axes développés dans l'ouvrage, au tout début, il y avait vraiment une demande sociale de mettre les mains dans la terre. Pour faire simple, c'était un peu ça, quoi. Voilà. Et qui a été doux, qui a été aussi mis un petit peu, qui a été poussé aussi par des associations, notamment tous les. Alors, c'était beaucoup des jeunes qui faisaient des bombes à graines, voilà, ils mettaient des graines de fleurs, qui jetaient un peu n'importe où dans les terrains vagues pour fleurir, pour faire potager un peu n'importe où. Et ça a dépassé simplement le côté un peu provocateur, parce que du coup, les gens se sont rendus compte d'abord qu'on pouvait planter un peu partout, et puis qu'il y avait une ambiance qui existait. Donc voilà. Et puis, l'argument le plus fort et le succès des jardins partagés, alors dans toutes les grandes villes, hein, pas que à Paris, ça a été le lien social. C'est-à-dire que le grand problème dans les villes, c'est cet isolement des gens. Et là, brusquement, les gens se sont retrouvés sur quelques mètres carrés, ensemble. Le jardin partagé, c'est pas chacun son truc. Hein. C'est pas du jardin familial. C'est vraiment, on a un terrain, et puis il y en a un qui bêche, l'autre qui plante, on arrose à son tour et tout ça. Et du coup, ça a une obligation de lien social qui est très forte, avec une discussion. Ça a été vu, on a vu ça à Marseille, on a vu ça un peu partout, qui dépasse complètement la plantation pour discuter cuisine, pour discuter mobilité, pour discuter, et voilà, etc. Et de recréer ce qu'on appelle du lien social qui est si manquant et si fort en ville, quoi.
Donc on peut parler aussi d'une notion de refaire société ou micro-société. Souvent, c'est à l'échelle d'un quartier ou juste au pied d'un immeuble. On peut parler du coup d'une culture du lien social. Petit jeu de mots.
Ouais, ouais, si on veut, ouais, tout à fait. Ouais.
Du coup, ouais, avec une répartition des tâches, etc. L'expérience sociale des jardins partagés, on vient de l'évoquer. Mais qu'en est-il du point de vue de la santé? Quand on sait qu'avec le dérèglement climatique, les allergies, notamment au pollen, explosent, de plus en plus de gens redoutent l'arrivée du printemps. Parler de végétalisation des villes, est-ce que c'est aussi se résigner à se shooter aux antihistaminiques?
Ouais, alors c'est une vraie question qui est compliquée. Parce qu'elle n'est pas vraiment bien travaillée. Quand j'ai commencé, il y a 25 ans, à faire des choses comme ça, et notamment des conférences dans des hôpitaux ou autres, parce que j'étais invité par les toubibs, et en fin de compte, ils m'attendaient au virage pour me poser cette question-là. Mmh. Vous faites une promotion de végétation, et là-dedans, il y a des espèces qui sont allergènes, c'est pas possible, vous êtes en train de rendre tout le monde complètement malade. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les espèces allergènes... Il y a des listes noires, comme on dit, voilà. Donc il y a toute une série de maintenant, tout le monde sait qu'il ne faut pas planter ça trop proche des habitations, au cas où, voilà, ça peut poser problème. Mais c'est surtout qu'il y a une autre façon de répondre, et moi c'est ça que j'ai le plus avancé, c'est il y a une telle pollution en ville que nos seuils de résistance, ils ont complètement changé. Et donc du coup, nos poumons sont déjà suffisamment encrassés pour que n'importe quel allergène qui arrive va pouvoir s'installer, quoi. Donc on a une sensibilité qui est d'autant plus forte qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 30, 40, 50 ans, la majorité des gens qui vivent en ville sont nés aussi en ville et ont très peu de contact avec la nature. Donc les enfants, notamment, qui jouaient dans la terre, qui mangeaient de la terre, qui mangeaient tout, qui broutaient la pelouse et tout ça, et ben, du coup, maintenant, ça n'existe plus. Et donc, cette auto-vaccination qui existait, quand même, voilà, elle a disparu. Et c'est des éléments qui permettent de comprendre pourquoi aussi il y a de plus en plus d'allergies.
Et si on n'a plus d'enfants pour brouter et désherber comme ça les jardins, dans ce cas, on peut peut-être réintroduire les moutons ou d'autres espèces animales, justement, qui sont aussi utilisées.
Alors, en entretien, ça existe, ça se fait déjà, ça, l'éco-pâturage, voilà. Il y a plein de villes qui font ça, il y a ça, les universités de Lausanne, il y a ça à Genève, il y a ça à Rennes, il y a ça à Paris aussi, hein, sur des grands sites industriels ou administratifs, où les pelouses, c'est des boutons qui sont déplacés et qui broutent
la pelouse. Ouais. Donc, les moutons, mais en autres animaux, il y a aussi les poulaillers, les poules qui sont aussi beaucoup utilisées en termes de réintroduction dans les jardins partagés, etc. C'est aussi un aspect pédagogique de tout
ça. Ah oui, complètement, ouais. Bien sûr.
Les jardins peuvent avoir également.
Il y a deux voies, quoi. Dans le titre, on a décidé volontairement de mettre un S à biodiversité. Normalement, on parle de la biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'il y a la biodiversité. Alors, c'est ma rigueur scientifique. Il y a la biodiversité spontanée, toutes les espèces pour lesquelles on pense tout de suite quand on parle de biodiversité. Et quand on parle de biodiversité, on ne pense pas obligatoirement aux vaches et aux moutons. Quoi, voilà. Or, la biodiversité cultivée, elle est très importante. Et ce qu'on disait tout à l'heure, elle tend à se mixer et à travailler aussi ensemble, à faire des choses ensemble. Donc, il faut à prendre en compte les deux, quoi, voilà. Sans aller trop loin. Le cas des abeilles, alors j'étais un des grands défenseurs à Paris pour réintroduire des ruches. Oui. On a complètement dépassé l'entendement, c'est-à-dire que maintenant on a des milliers et des milliers de ruches qui posent des problèmes parce qu'ils sont en compétition avec les quelques bourdons qu'on avait. Oui. Voilà, et ça on l'a démontré, quoi. C'est très très clair. Donc du coup, voilà, il faut à chaque fois raison garder on a un gros problème de sémantique, c'est cette utilisation, voilà, dès qu'on a des pensées ou dès qu'on a une ruche, ça y est, on fait de la biodiversité. On a trois arbres, c'est une forêt urbaine. Voilà.
Les hôtels à insectes aussi.
Voilà. Donc du coup, on se retrouve aussi avec des mots qui nous perturbent, parce que si les 10 arbres qu'il y a sur la place, ça fait forêt, alors qu'est-ce qu'on... On a atteint un objectif. La forêt, c'est un écosystème. Comment est-ce qu'après, nous, on peut expliquer que c'est pas tout à fait ça et que, voilà. Donc il faut qu'on revienne peut-être aussi aux bons mots pour parler des choses, quoi.
Et introduire plus de végétation en ville, ça ne réduira pas pour autant le passage humain. Comment est-ce qu'on peut préserver la survie des végétaux qui sont dans un milieu aussi hostile avec le passage humain, les gens qui veulent cueillir les fleurs, le passage à répétition, etc.
Alors, il y a deux choses. Il y a l'incivilité qui est très forte en ville, ça c'est clair, bien évidemment. Mais il y a aussi la façon dont c'est présenté. Si l'herbe elle est plus haute parce que c'est de la fauche, les gens ils iront moins. D'abord parce qu'il peut y avoir des tiques dedans, parce qu'ils vont être sales ou des choses comme ça, quoi. Alors il faut, c'est ce qu'on a appelé la gestion différenciée qui a existé, qui se refait d'ailleurs toujours maintenant, où on est capable de proposer des éléments de parc qui sont très sauvages, entre guillemets, ou plus sauvages tout au moins, et puis des zones pour jouer au ballon, pour pouvoir pique-niquer ou autre, quoi. Et là, on voit sur la place des Vosges, tout le monde a complètement investi cet après-midi. Là, je suis passé les pelouses parce que on a besoin de ça, c'est complètement vital.
Et peut-être en dernier petit mot pour finir, est-ce que vous auriez un petit message d'espoir, ou je ne sais pas, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce travail dans d'un point de vue pérennité? Est-ce que c'est plutôt encourageant ce qui se fait aujourd'hui?
Oui, on va dans le bon sens. Mais évidemment, moi, comme ça fait 25 ans ou 30 ans que je travaille sur le sujet, ça va pas assez vite, quoi. Voilà. Et la preuve, c'est qu'on arrive aussi à des catastrophes qui pourraient être évitées, sans doute. Alors, le réchauffement climatique, on aurait eu du mal à l'éviter complètement, ça c'est sûr. Mais on fait rien aujourd'hui non plus pour pouvoir faire des précautions pour l'avenir. Donc, je veux rester positif, sans quoi moi, je réitérerai tout. Mais... oui, ça bouge, on fait ça mieux, mais il faudrait surtout que les décideurs aillent chercher les experts qu'il faut quand ils font des choses et qu'ils ne restent pas dans leur idée d'une culture avant tout économiquement viable et qui répondent à leur court terme. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, nous, scientifiques, c'est de faire passer la complexité et la durabilité des choses, quoi, voilà.
Bah, merci.
Et on va conclure l'interview là-dessus. Merci beaucoup Alice pour l'interview. Merci beaucoup Philippe Clergeau d'avoir été avec nous dans la matinale. On rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Agriculture urbaine et biodiversité. Et tout de suite, on va passer aux actus du jour avec le flash info de Éléonore.
Le flash info de la matinale de 19h.
Bonsoir. États-Unis, Trump déclaré depuis son investiture à la Maison-Blanche ne reconnaître que deux genres, féminin et masculin. Ces propos qui ont fait réagir se sont concrétisés. Les demandes de visa et d'ESTA en direction des États-Unis requièrent maintenant la mention du sexe de naissance et suppriment donc la mention X jusqu'ici faite pour les personnes non-binaires. Les ministères des Affaires étrangères des pays européens alertent leurs ressortissants sans dénombrer pour le moment de refus à la frontière. Et puis la Maison-Blanche a annoncé ce mardi que la Russie et l'Ukraine ont accepté un consensus, l'arrêt des hostilités en mer Noire, à la suite des deux jours de discussion entre les chefs d'État en Arabie Saoudite. Les installations énergétiques des deux parties seraient mises hors de cause, ainsi que l'utilisation militaire des navires commerciaux. Sport, Bruno Retailleau vs Teddy Riner. Le célèbre judoka s'est exprimé ce week-end en défaveur de la proposition de loi tenue par LR, interdisant le voile dans les compétitions sportives et amatrices. Il appelle à penser l'égalité au lieu de l'acharnement sur une seule et même religion. Le ministère de l'Intérieur, lui, a répondu ce matin à l'antenne d'Europe 1 que le voile était marqueur de soumission et d'infériorisation de la femme, replaçant le texte de loi dans un contexte urgent après que l'exécutif l'ait inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale en février. Justice, l'acteur Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle sur deux femmes en 2021 sur le tournage des Volets Verts, se défend pour ce deuxième jour de procès de ne pas être un frotteur de métro. Après avoir accusé le mouvement féministe MeToo d'être responsable de son procès, il affirme avoir attrapé les hanches d'une victime pour ne pas tomber. Une chute hasardeuse qui pourrait être qualifiée de récidive pathologique en raison d'une vingtaine de plaintes similaires classées pour prescription au moment des faits. Et maintenant, société, une hausse conséquente de sollicitations à l'INIR, l'instance indépendante de reconnaissance et réparation. La présidente de l'association dénombre un bilan multiplié par 3, expliqué en raison par la médiatisation des violences sexuelles au cœur de l'Église, notamment par l'affaire Bétaram et l'abbé Pierre. La moyenne d'âge des victimes recensées est de 56 ans, majoritairement des hommes, démontrant ainsi l'omerta et l'importance de la temporalité dans ces affaires. Et enfin, pour terminer, culture, le printemps du cinéma qui se tenait de dimanche à ce soir, organisé par la Fédération nationale des cinémas français, a constaté une hausse de 45% d'entrées par rapport à 2024. Tous les films à l'affiche au tarif unique de 5 euros. De quoi réjouir petits et grands après-midi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Restez sur Radio Campus.
Merci beaucoup Éléonore pour ces actus du jour. On va se faire maintenant une petite pause musicale. On s'écoute Skin and Bones de 070 Shake.
Take us toe, but whichever way we go, no, I'm like I'm more than a pair of skin and bones, and that really made a difference in my story. Life would take its toll, but whichever way we go, no, I'm right here by your side, shawty. What a contrast, my skin and bones against the color.
Et on vient d'écouter Skin and Bones de 070 Shake.
La matinale de 19h.
De retour dans la matinale, et avant le Zoom, on retrouve Francesca qui va nous parler des managers toxiques. Salut Francesca.
Salut Péa. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une chronique un peu spéciale ce soir que j'ai co-écrit avec Aurélien, un ami. Co-écrit, c'est surtout lui qui l'a écrit. Je sais pas si tu le sais, mais je crée des contenus.
Okay.
Tu savais ?
Non, je savais pas. Okay.
Alors, je crée des contenus régulièrement sur les approches managériales. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ma chronique est surtout sur les traits de managers toxiques. Surtout, ne pas reproduire.
Très bien.
Alors, attention, hein, j'ai aussi fait des erreurs en tant que manager dans ma carrière, bien sûr. Mais je me souviens d'une phrase d'un de mes employés lorsqu'il a évolué manager. Il m'a dit « Vous avez changé ma vie ». Donc, avec mon humble expérience, j'ai quand même saisi une chose essentielle quand on est manager, c'est que pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Et quand on aime les gens, on ne veut que le meilleur pour eux. Donc petit clin d'œil à mon mentor aussi. Alors ce soir, je rends hommage à une espèce en voie de disparition ou pas, le manager toxique. Un véritable visionnaire, pas du tout, hein. Incompris, un maître de l'innovation, mais à l'envers, pourvu qu'il disparaisse quand même. Donc, vous rêvez de stress, de tension permanente, ne cherchez plus. Le manager toxique est là pour vous servir. Plus résistant qu'un chewing-gum collé sous votre chaussette aussi d'ailleurs. Plus insaisissable qu'un colis égaré, il est partout et il est nulle part à la fois. Son super pouvoir, le micromanagement extrême, il surveille les moindres faits et gestes mieux qu'un stalker sur Instagram. Il sait exactement combien de secondes vous avez passé à la machine à café, et bien sûr, et il ne manquera pas de vous le signaler. Vous pensez travailler en autonomie? Ah bah non, c'est Big Brother. Il vous regarde et commente vos mails en temps réel. Pas une virgule ne lui manque. Son arme secrète, la communication floue. Vous savez, on peut aussi l'appeler le Jean-Michel à peu près. Il adore donner des consignes aussi précises qu'une promesse électorale. Fait comme si, fait comme ça, on devrait faire si on devrait comme ça. Et bien sûr, vous ne comprenez pas. Et si vous ne comprenez pas, bah c'est de votre faute. Son talent caché, la motivation à la Game of Thrones. Chaque journée est une élimination. Si t'es pas content, la porte est ouverte. Un vrai booster d'ambiance. Son passe-temps favori, voler vos idées. Avec la dextérité d'un pickpocket en festival. Vous avez bossé dur sur un projet, félicitations. Non, il ne vous le dira pas. Il le présentera surtout en réunion comme si c'était le sien. Bon, vous avez compris. Si votre manager coche toutes ces cases et que vous l'avez reconnu, bah, il y a quand même de grandes chances que vous êtes, et que si vous êtes brillant, c'est que vous êtes probablement déjà sur sa liste noire. Si certains se sont reconnus dans ce que je viens de dire dans cette chronique, il est temps de changer. Et pour tous ceux qui, chaque jour, managent avec bienveillance, qui font grandir leurs équipes et qui transforment positivement la vie des gens, je vous félicite. Vous ne construisez pas seulement une meilleure ambiance de travail, vous créez un véritable héritage pour les générations futures. Merci de prouver que leadership peut aussi rimer avec humanité.
Merci pour ces belles paroles, Francesca. Et tout de suite, on va enchaîner sur le Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Ce soir, dans la matinale et dans le Zoom, Garance reçoit Johannes, programmateur du Petit Banc, pour parler du festival Rage Sacré. Salut Garance, salut Johannes.
Bonjour. Salut. Alors oui, dans le Zoom d'aujourd'hui, nous accueillons Johannes à l'occasion du nouveau festival Rage Sacré, donc qui aura lieu vendredi et samedi prochain au Petit Banc. Donc bonsoir Johannes. Tu es programmateur au Petit Bain et donc l'un des instigateurs du festival qui se présente comme un festival de concerts atypiques, sensoriels et engagés. Et donc pour la première édition du festival Rage Sacré, vous proposez au public 2 jours d'expérimentation en plein équinoxe de printemps pour célébrer le renouveau et le sacré par la transe et les rituels. Donc comment est-ce que Rage Sacré est né et en quoi c'est un festival atypique ?
Alors, festival atypique, c'est toujours compliqué, un peu prétentieux, parce que finalement, nous, on est une salle de concert ouverte toute l'année et avec quasiment autant de concerts qu'il y a de jours dans l'année. Donc, on peut, enfin, c'est qu'on n'est pas forcément dans un, même si peut-être plus tard, on pourra sur des concerts atypiques ou hors les murs ou dans des cadres spécifiques. Par contre, c'est venu d'une vraie envie de programmation, de mettre en valeur une nouvelle scène qui, on n'est pas d'ailleurs forcément les plus novateurs ou initiateurs de cette dernière, mais en tout cas qui rapproche, on va dire, les cultures de la musique pop, expérimentale et traditionnelle. Donc le but, c'était un peu d'avoir, même si sur une, c'est encore un peu prétentieux sur une première édition, mais d'avoir un panel, on va dire, dans ce style de musique, de ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc on était parti un peu à la base sur la nouvelle scène catalane, pardon, avec des artistes comme Tartare Elena ou Julia Colom ou Adelaïda ou Verde Prato, qu'on retrouve, elle, par contre, sur le festival. Et à l'époque, il y a une de mes collègues aussi qui suivait pas mal l'émergence d'une artiste de Sardaigne qui s'appelle Daniela Pesse, mm-hmm. qui sera plus ou moins la tête d'affiche du premier jour. Et il y avait aussi d'autres initiatives plus anciennes, mais qui ont retrouvé un peu cet esprit dans l'ADN du Sonic Protest qui s'est arrêté l'année dernière sur le New Trad Festival, dont c'est la deuxième ou troisième édition cette année, qui est surtout le collectif aussi La Novia, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, d'où vient le groupe France, qui mélange donc musique noise et vielle à roue et musique occitane, qui jouera le lendemain. Et on se rendait compte qu'il y avait, par rapport à avant, où cette scène pouvait paraître, on va dire, passéiste, il y avait une vraie récupération par une scène un peu plus jeune et qui avait à cœur de défendre des valeurs qui sont aussi les nôtres à travers la musique, c'est-à-dire de regarder dans le passé pour, on va dire, trouver le futur, entre guillemets.
Et quand vous dites que vous proposez des véritables expérimentations, c'est qu'il y a une dimension scénique importante dans le travail des artistes, c'est aussi de la performance ou c'est...
Qu'est-ce qui fait que c'est... Ouais.
D'accord.
Donc, on va dire dans les artistes les plus performatifs, il y a donc Fulminé, qui est la moitié du groupe plutôt pop. Donc, c'est complètement différent. Crème Solaire, un groupe suisse, qui elle est vraiment dans l'incantation, qui va scander des paroles en italien, on va dire un peu comme presque quelque chose de religieux, mais dans le sens spirituel, de transe. Il y a aussi l'artiste breton Kraz, qui lui joue le premier jour. Donc lui, il joue en plein milieu de la fosse avec un biniou et il tourne sur lui-même, donc tout le public est autour de lui. Et donc là, c'est vraiment une performance non-stop de 30 minutes. Ça, on va dire que c'est les deux artistes les plus proches de la performance, dans le sens où tu l'entends. Mais après, c'est un peu le cas quand même de tous les artistes qui jouent ce soir-là. Il y a vraiment une dimension très, très trans dans Daniela Pesse. France, généralement, Yann Gourdon joue de la vielle à roue en plein milieu du public. Il y aura aussi un concert sur le rez-de-chaussée du bateau de Jazz Lambo qui jouera de l'électronique avec une personne à la cornemuse en plein milieu du public. Donc oui, il y a quand même une dimension, en tout cas, de sortir un peu des paradigmes du concert classique, en effet.
Et du coup, enfin, là, vous définissez comme avant-gardiste, mais on peut appeler ça aussi néo-trad. Qu'est-ce que...
Exactement.
Ouais, et moi, ça m'a... Enfin, justement, je me suis posé la question de vous... Le festival, c'est Rage Sacré, donc il y a la dimension spirituelle, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu du second degré ? Parce que moi, ça m'a fait penser un peu à espèce de spiritualité New Age.
Ouais. Oui, parce que là, du coup, c'est vrai qu'on parlait un peu sérieusement, mais c'est que il est à la fois beau et drôle, le nom Rage Sacré. C'est qu'en effet, on arrive. En fait, c'est la première fois que ça arrive, c'est qu'on avait fait d'autres temps forts à Petit Bain, où on avait le nom, on avait le concept, mais on avait zéro groupe. Là, c'est un peu l'inverse. Le line-up s'est déroulé un peu tout seul, mais on n'avait ni graphiste, ni nom, ni. Et on a fait beaucoup de recherches sur ChatGPT ou autre pour essayer de trouver. Et à un moment, en rigolant, il y a juste ce mot Rage Sacré qui est venu, mais un peu dans un état un peu d'ébriété presque, on va dire. et le lendemain, c'était vraiment une idée à la con. Et puis je regarde et je vois qu'en effet, il y a des stages de femmes, je crois, aux États-Unis pour le féminin sacré qui vont crier dans la nature leur rage contre le patriarcat. Il y a plein de, mais c'est des stages, je crois, hyper chers. Il y a plein aussi de. Je crois que je suis tombé sur un stage de formation New Age à Paris qui s'appelle comme ça. On a fait ah merde. Et en vrai, après, on avait d'autres solutions, d'autres propositions de noms. Et à force d'en parler avec les artistes, les tourneurs, notre entourage, tout le monde retenait que Rage Sacré. Les gens disaient, non, c'est vachement plus cool comme nom de festival. On a fait, tant pis pour le côté New Age, ça marche, les gens ont l'air de kiffer. Quoi.
Est-ce que quand même la rage, c'est parce que le Petit Bain est connu pour ses engagements queer et anticapitalistes, est-ce que c'est une manière de faire référence au contexte économique difficile que traverse le Petit Bain et plus généralement les musiques actuelles et plus généralement la culture?
Je pense que en fait à la base ça venait d'un comme vous avez dit, c'est l'équinoxe. Il y avait ce côté un peu de. Moi, je voulais un truc en clair-obscur. Je pensais vachement au film Midsommar, où c'est un film d'horreur, mais qui se passe pendant qu'il y a 24 heures de soleil. Donc d'avoir un peu ce contraste un peu étrange entre quelque chose de sombre et quelque chose de solaire. D'où le nom Rage Sacré, qui n'était pas qu'une blague, qui avait quand même. Et il n'y a qu'un artiste, je pense que tous les artistes sont engagés, mais qui est profondément engagé dans ses paroles, c'est Shovel Dance Collective, qui est un groupe de 9 musiciens et musiciennes qui reprennent des chants traditionnels anglais ou irlandais ou écossais ou du Pays de Galles, remis au goût du jour, avec justement un vrai engagement queer, anticapitaliste, et aussi mélange ces chants traditionnels avec de la musique expérimentale, du drone. Donc, et en même temps, il y a ce côté un peu justement de retour vers les traditions qui est.
Je peux faire un peu peur.
Oui, mais justement, mais dans le bon sens, ouais, dans le sens vraiment spirituel. Donc, l'opposition de rage et de sacré. Et après, pour revenir à la situation de Petit Bain, malheureusement, c'est la situation de la culture, ouais, et la situation du monde entier où on est au bord de la Troisième Guerre mondiale aujourd'hui. Mmh. Donc, oui, en effet, je pense qu'il y a. Pas forcément quelque chose d'engagé dans le sens dans les paroles des artistes ou dans nous, nos prises de parole, mais je pense que oui, rien que le fait d'essayer de faire un festival comme ça aujourd'hui, oui, complètement.
Parce que j'ai vu que vous avez mis en place un prix de soutien, c'est du coup parce qu'il y a des difficultés
Nous, oui, on observe des vraies difficultés financières, déjà à Petit Bain de manière générale. Et pour le festival, on a zéro soutien, on n'a pas de subvention, ni privé ni public pour l'instant. Après, c'est une première édition, mais en tout cas, on l'a fait direct dans une période où si on s'écoutait, si on était des bons économistes, on n'aurait pas dû le faire, parce qu'on avait d'autres problèmes, on va dire, de trésorerie. Et donc, c'est vrai que c'était un petit peu une gageure de le faire, et d'où ce tarif soutien que des gens ont pris, donc ça fait plaisir. Okay. Mais a priori, on va être complet, donc c'était quand même plutôt un pari réussi. Quoi.
Et pour finir, est-ce qu'on pourrait parler un peu du déroulé? Est-ce que par exemple le restaurant solidaire de Petit Bain, il est mobilisé pour le festival ou
Alors, il y aura, du coup, on a invité un collectif qui s'appelle Nartex, qui fait un festival cyber-médiéval. Donc, qui mélange justement un peu musique électronique, hyper pop et un peu ambiance héroïque fantasy avec un peu déguisement d'elfe. Il y aura un atelier de jeux de rôle, de création de personnages de jeux de rôle, atelier bougie, faire ses vêtements et tout ça. Donc, et c'est aussi pour nous une façon d'offrir à un public un peu plus jeune, parce que tout ça sera gratuit, et un collectif un peu plus jeune, de leur ouvrir les portes de Petit Bain, et aussi montrer justement dans la journée et la soirée, pendant les concerts et jusqu'à 2h du matin avec des DJ sets, d'offrir un peu ça à tout le monde, et pas justement penser que les musiques traditionnelles sont juste pour une certaine catégorie de personnes. Quoi.
Et donc là, si vous deviez choisir, on va dire, un ou deux artistes, une ou deux artistes qui vous ont plu tout de suite et que vous avez voulu programmer en premier?
Ben là, c'est facile, c'est... Je peux pas dire que c'est facile parce que c'est pas cool pour les autres artistes. Alors il y en a deux qui sont bien et les autres. Mais non, c'est vrai, il y a Daniela Pes parce qu'elle était un peu à l'initiative justement de cette envie de thématique de festival. Et aussi parce qu'elle n'a jamais été vue à Paris. Elle a joué qu'au trans pour le moment, donc c'est rare. Et ce qu'elle fait est très très beau. Mais je pense que de toute façon, la prochaine fois qu'elle jouera à Paris, sera dans une salle beaucoup plus grande, à mon avis. Et le deuxième, c'est le groupe dont j'ai déjà parlé précédemment, qui s'appelle Shovel Dance Collective. Mm-hmm. Eux, c'est leur première date en France. Ça n'a jamais été vu. Et eux, ils ont vraiment une proposition à la fois esthétiquement forte et aussi c'est le groupe le plus, comme je disais, le plus engagé du mm-hmm. festival. Et c'est 9 musiciens et musiciennes sur scène en rond. Donc il va vraiment avoir un truc baltrade pendant qu'il joue. Je pense que voilà, par les performances, ça va être pas mal aussi. Et je pense que, je ne sais pas si vous voyez ce groupe irlandais qui s'appelle Lancôme. Je pense que, en tout cas, ils sont très très connus maintenant. Ils ont été eux aussi, un peu comme France, en France, à l'initiative du mouvement un peu néo-trad qu'on observe en ce moment. Et je pense que pareil, ils vont suivre le même chemin en termes de notoriété. Donc c'est un peu le... On pourrait dire que vous y étiez.
Très bien, et donc on va s'arrêter là pour le Zoom. On vous donne rendez-vous donc, chers auditeurs, vendredi 28 et samedi 29 mars, c'est ça. À Petit Bain pour le festival Rage Sacré. Et tout de suite, on fait une petite pause musicale. On s'écoute 2468 de Horse Girl. On vient d'écouter 2468 de Horse Girl.
la matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et pour conclure cette émission, on retrouve Fabien pour parler des sorties culturelles de la semaine. Salut Fabien.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, et toi?
Eh bien, on va y aller tout de suite, tout est gratuit. Donc on commence avec une sortie de golf. C'est la 18e édition de Tous au Golf pendant 17 jours. Du 28 mars au 13 avril 2025, l'opération Tous au Golf permet au grand public de s'essayer gratuitement à cette discipline pour avoir l'opportunité de découvrir le golf et aux déjà golfeurs de faire de nouveaux émules. Durant cette période, de nombreux clubs en Ile-de-France proposeront des séances d'initiation gratuites ou à tarifs réduits. Ces sessions permettent aux participants de s'immerger dans l'univers du golf, de manier les clubs et de se familiariser avec les parcours, le tout dans une ambiance conviviale et détendue. Le golf, c'est quand même un sport complet qui sollicite de nombreux muscles, améliore la souplesse, l'équilibre et l'endurance. Il offre également une occasion de se ressourcer en pleine nature, favorisant ainsi le bien-être mental. Et puis sa pratique intergénérationnelle en fait une activité idéale à partager en famille ou entre amis. Pour connaître la liste des clubs participants en Ile-de-France et réserver votre initiation, vous allez sur le site officiel de la FFG. Il est conseillé de réserver rapidement car les places sont limitées. Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir le golf et de profiter un moment de détente en plein air. Et puis le samedi 29 mars, la ville de Lagny-sur-Marne célèbre l'édition 2025 de son grand carnaval. Sortez votre plus beau costume. Cette année, c'est sur le thème des contes et légendes que cet événement a été pensé. Alors, en plus du défilé costumé, de nombreuses associations de la ville participeront à ce grand carnaval afin de proposer des démonstrations. Évidemment, on ne peut que vous encourager de venir vêtu de vos plus beaux costumes, accessoires folkloriques ou encore maquillage coloré. Le départ est prévu à 15h rue des Sources avec une arrivée sur le parking des bords de Marne. Comme pour tout carnaval, l'entrée est entièrement gratuite et ouverte à tous. Néanmoins, il est très encouragé de venir déguisé et maquillé. C'est le 29 mars 2025, c'est gratuit. Et pour plus de renseignements, il faut aller sur le site lagny-sur-marne.fr. Avis aux gameurs et aux gourmands. Extrême, la marque aux cônes glacés débarque dans le 1er arrondissement de Paris du 26 au 29 mars 2005 avec un pop-up hybride qui va faire fondre la capitale. À mi-chemin entre un bar à glace et un bar à jeux d'arcade, préparez-vous à une expérience immersive aussi salivante que décalée. Au programme, des néons flashy, une ambiance rétro-futuriste et des bornes d'arcade qui vous feront oublier le monde réel. En bonus, des skins inspirés des nouvelles saveurs de glace qui ajouteront un twist à cette expérience glacée. Pour les plus audacieux, direction la piste de danse. Iconique, pardon, pour faire monter le score ou le photomaton à la pince géante pour capturer votre meilleur moment au pop-up. Et là, cerise sur le gâteau ou plutôt sur le cône, un bar à glace gratuit où vous pourrez déguster en avant-première deux nouvelles recettes de l'enseigne. L'entrée est gratuite, l'ambiance électrique et les glaces ultra gourmandes. Vous allez fondre à coup sûr.
Je vais devoir te couper ici, Fabien, malheureusement, on a plus de temps. C'est déjà l'heure de nous quitter. Merci à tous nos auditeurs et nos auditrices d'avoir été avec nous pour cette matinale. Merci à nos invités du soir, Philippe Clergeau et Johannes pour le festival Rage Sacré. Merci à tous nos bénévoles d'amour avec nous ce soir, Alice Garance, Éléonore, Francesca, Fabien et Pablo à la Réal et Maïwen à la coordination. Et restez avec nous sur Radio Campus Paris, retrouvez tout de suite une rediffusion de l'émission Acétone sur les grands thèmes électoraux et les discours politiques, et à très vite.